Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Radio Territoria vous fait vivre l'actualité du moment. C'est en ce moment dans le 8e arrondissement, Grand Palais, 5e édition du CIPCA, le salon bas carbone. Nous recevons depuis ce matin, et ce sera le cas jusqu'à jeudi, de nombreux invités ici. Et nous sommes ravis de recevoir Jean-Paul Viguier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Vous êtes architecte et président fondateur de Viguier, votre agence d'architecture. Vous intervenez aujourd'hui au CIPCA sur la rénovation et la transformation des bâtiments. Un grand merci à vous d'être présent et de répondre à nos questions. Et à mes côtés, évidemment, je salue Sylvain Lévy-Valency, éditorialiste pour Radio Immo et Radio Territoria. Salut Sylvain.
Merci. Alors, comment ça s'est passé cet après-midi? Pas bien.
Hein? Super.
Bien. On a la chance d'avoir Jean-Paul Viguier sur le plateau.
Ouais. Voilà. C'est une première pour vous d'ailleurs sur Radio Immo, vous me disiez?
Oui, c'est la première fois que je vous parle et que je donne une interview sur Radio Immo et je suis très content.
Eh bien écoutez, merci. Le plaisir est partagé. Est-ce qu'un architecte doit désormais faire... prendre parti du principe que l'on conserve et transforme avant même d'envisager de démolir? Ça, c'est un vrai sujet qui est revenu régulièrement depuis ce matin.
Oui, alors c'est un sujet qui est d'actualité, en effet. Il a été mis en avant de la scène par la quantité astronomique de bureaux vides que nous avons sur le territoire, parce que nous ne savons plus quoi faire de ces bâtiments, qui sont souvent d'ailleurs de mauvais bâtiments, mal placés ou mal conçus, qui ne correspondent plus à ce que l'on attend d'un lieu de travail. Et la question de savoir si on les démolissait ou si on en construisait d'autres ou si on les transformait s'est posée régulièrement. Mais cette question ne s'est pas uniquement posée sur des immeubles de bureaux. Il faut noter que cette question est une question qui est quasi universelle maintenant sur l'urbanisme français et même mondial, pour ne pas dire européen, au sens où nous avons tout un patrimoine vieillissant, de logements également, de nouvelles normes, de nouvelles façons de regarder la ville aussi, de façon de distribuer les territoires, une augmentation de la densité urbaine considérable, et que, puisque vous le savez, nous n'avons plus d'autorisation maintenant de construire des bâtiments neufs sur des sites qui n'ont pas déjà été bâtis. Mmh. Et donc cela veut dire que quand on va quelque part, on trouve déjà un bâtiment sur le terrain qui est l'objet des convoitises pour en construire un autre. Donc la première question qu'on se pose, c'est: est-ce que je le conserve? Est-ce que je le garde? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le transforme? Est-ce que je le reconsidère ou est-ce que je le démolis?
Alors... on en a parlé tout à l'heure lors de la conférence, qui est celui de la transformation des bâtiments. En fait, il n'y a pas de vérité pour transformer un bâtiment. Il y a vraiment des spécificités qui sont liées à la transformation. Est-ce qu'on peut vraiment tout transformer? Est-ce qu'il y a des fois où vous dites, peut-être des dossiers, on vous a dit, voilà, on a une opération, on aimerait vous consulter, où vous auriez dit, écoutez, on a essayé toutes les solutions, il n'y a qu'une seule solution, c'est raser pour reconstruire.
Et la question se pose en effet, parce que, par exemple, pour prendre l'exemple le plus trivial, quand on veut passer d'un immeuble de bureau à un immeuble de logement, on a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, l'épaisseur d'un immeuble de bureau, en général, est de 18-19 mètres, dans sa partie du long pan. Un immeuble de logement dépassera rarement 14-15 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire, vous avez 4 à 5 mètres de trou, si je veux dire. Qu'est-ce que vous en faites?
Bien sûr.
Voilà. Ensuite, les hauteurs de dalles, de plafond, des hauteurs de construction ne sont pas les mêmes. Dans un immeuble de logement, on construit en général des dalles finies, des étages finis de logement entre 2,50 m et 2,70 m. Dans les immeubles de bureaux, on est largement au-dessus de 3 mètres, parce qu'on a évidemment de la technologie à passer. L'éclairage n'est pas le même, la structure n'est pas la même. Dans un immeuble de bureaux, on a plutôt tendance à faire ce qu'on appelle des poteaux-poutres, c'est-à-dire des planchers et des poteaux, de façon à garder une flexibilité maximale de l'organisation du bureau par la suite, lorsqu'il sera terminé. Dans un logement, on n'a pas besoin de ça. Au contraire, on veut des pièces.
Mais
oui. Quand on est dans sa chambre, on n'a pas envie d'entendre le bruit de quelqu'un qui est dans la pièce d'à côté. Donc il faut isoler, il faut diviser l'espace en sections, en pièces et en fonction de pièces. Il y a des cuisines, il y a des salles de bain,
alors,
il y a des
Oui, puis les fluides,
et les fluides.
Ça complexifie l'opération. Ça veut dire qu'en fait, voilà. La tendance, alors j'étais un peu provocateur tout à l'heure, mais la tendance qui consiste à dire politiquement, parce que c'est ça le langage politique, on va transformer les bureaux en logement parce que c'est la solution pour résoudre la crise du logement. la vérité est un peu plus nuancée. Ouais. On peut dire ça ?
Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de modestie quand on aborde ce domaine, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Mmh. On n'est pas sûr. Mmh. Donc, il y a la partie technologique du succès, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que l'immeuble existant, s'il s'agit de bureaux, peut être transformé de telle sorte qu'il devienne des logements ?
Alors, justement, il y a...
Alors, par exemple, est-ce que l'épaisseur dont on a parlé peut être vaincue ? Mmh. C'est-à-dire, comment on surmonte cette question ? On peut créer, par exemple, des jardins d'hiver, des terrasses, des loggias qui consomment 1,50 m, 2 mètres d'épaisseur, qui fait une pièce supplémentaire, par exemple, pour les familles, pourquoi pas. On peut, on peut valoriser les appartements traversants, c'est-à-dire avoir des pièces et des loggias des deux côtés de l'immeuble au lieu de les avoir d'un seul côté. Les circulations verticales ne sont pas du tout les mêmes. Pas du tout. Dans un immeuble de logement, il y a des gaines partout, sur les cuisines, les salles de bain, les toilettes. Dans un immeuble de bureau, il y a juste des gaines à l'endroit des sanitaires. Et elles sont groupées. Ouais.
Alors, Jean-Paul, justement, je voudrais qu'on parle d'un exemple, parce qu'il vous concerne directement. À Paris, vous avez transformé rue d'Arreau, un immeuble de bureau obsolète en logement, avec une surélévation en bois et du réemploi. C'est quoi ? C'est un démonstrateur exceptionnel de ce qui peut marcher que fonctionner et qu'on pourrait peut-être répliquer.
Alors c'est vrai que la rue d'Arreau, c'est il y a tout dedans dans l'opération. On pourrait faire, l'opération école. Ouais. L'opération école, voilà, il y avait toutes les complexités possibles et imaginables, toutes les transformations, l'équilibrage par la surélévation du bâtiment en bois. Bref, tous les défis étaient présents.
Mais est-ce que ça reste un simple exemple, ça, de réussite, ou alors ça peut être effectivement répliqué sur d'autres bâtiments ?
Alors oui et non, c'est-à-dire oui au sens où c'est un paradigme, en quelque sorte, des problèmes qu'on a trouvés dans cet exercice de haute voltage, quelquefois, parce qu'on ne sait pas du tout si on va aboutir. Hein. C'est sûr. Et souvent, on est soumis à des explorations qui amènent à des impossibilités sur des problèmes de structure, par exemple, ou de fondation, par exemple. C'est-à-dire, si vous rajoutez des étages à un immeuble, l'immeuble a pesé plus lourd, il n'est pas sûr que les fondations que vous avez sous les pieds aient été conçues pour supporter une charge supplémentaire. Donc ça rend quelquefois l'exercice ou impossible, d'accord, ou trop coûteux à réparer, par exemple.
Et là, pour le coup, ça a été possible.
La
surélévation était sur combien de niveaux ?
Alors, la surélévation a été sur deux niveaux, mais pour elle être possible, il fallait qu'elle soit légère. D'où le bois.
Légère tout en étant solide, parce que vous savez, quand on dit légère... Parce que ça peut faire peur. Parce que vous dites, oui, il faut que ça soit léger. Mais néanmoins, il y a des gens qui vivent à l'intérieur.
Quoi. Oui, il faut que ça soit des vrais logements. Il ne faut pas que ça s'envole au premier, au premier coup de vent.
Vous savez, c'est l'histoire des trois cochons.
Oui,
quoi,
il y a les briques, le bois.
Non, parce que vous savez, la mythologie du bois, Jean-Paul, sur la faiblesse, la résistance, etc., il y a beaucoup de clichés par rapport au béton.
Oui, mais bien sûr. Mais donc le bois, il fallait aussi que nous fassions notre expérience par ailleurs. C'est-à-dire que cet exercice comporte de nombreuses adjacences, voyez, c'est-à-dire des choses que vous utilisez sur les côtés et que vous menez à l'étude parallèlement dont vous utilisez les résultats ensuite pour l'opération emblématique dont on vient de parler. Par exemple, nous avons fait une tour en bois à Bordeaux de 57 mètres de hauteur. C'était la tour la plus haute d'Europe à l'époque où nous l'avons construite.
Mais avec une dalle béton
en bois.
Au sol.
Oui, mais par contre,
pourquoi ?
Parce que là, elle est au bord de la Garonne et à 3 mètres, il y a de l'eau, donc on ne peut pas mettre le bois dans de l'eau.
Oui, oui, bien sûr.
Et pourquoi ? Parce qu'à Périgueux, il y a 6,2 sur l'échelle de Richter sur les tremblements de terre, donc le bois n'aime pas être secoué quand il est assemblé. Donc il a fallu garder le noyau central de la tour en béton pour contreventer la structure, voyez-vous. Donc chaque fois, ce sont des particularismes qui naissent et ces particularités constituent une espèce de liste d'expériences que vous avez à votre disposition lorsque vous abordez le sujet central, transformer des bureaux en logements. Sur la hauteur, ça a été à Darro un vrai problème puisque la loi Elan nous permet de rajouter des étages à condition que nous mettions des logements sociaux à l'intérieur de l'immeuble. C'est ce que nous avons fait avec Jessina, notre maître d'ouvrage, qui a été d'une patience infinie et d'un grand talent dans cette histoire parce que ça dure longtemps quand même. Et donc Jessina a été merveilleuse. Donc nous avons donc utilisé cette possibilité pour ajouter les deux étages. Parce que sans ces deux étages, le modèle économique ne marchait pas.
Mais non. Alors justement, bout à bout, elle a mis combien de temps l'opération ? Entre la conception du projet, quand vous avez gagné le concours,
et la finalisation.
Alors le délai habituel de construction s'est inversé. C'est-à-dire que d'habitude, les études peuvent être rapides. Et la construction met beaucoup de temps parce qu'il faut du béton, il faut couler, il faut des camions, il faut éviter l'hiver, enfin toutes les choses du chantier. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire la conception a été longue parce que nous sommes tombés que sur des problèmes qui n'avaient jamais été résolus auparavant, qui ont réclamé du temps, des discussions, voire des négociations avec la ville, d'ailleurs, sur la question de la hauteur.
Ouais.
Et par contre, le chantier est fabuleux. C'est-à-dire tous les objets sont fabriqués off-site.
Ouais.
C'est-à-dire on fait les plans, on les fait comme des plans d'exécution,
de l'assemblage,
c'est envoyé dans les usines.
Et c'est assemblé.
Et ce qu'on voit arriver sur le chantier, ce sont des panneaux tout prêts, il y a juste à faire clic-clac et assembler.
Ah ouais, c'est des Lego, quoi.
C'est une merveille pour les voisins. Ouais. Pas de bruit, pas de poussière, chantier rapide. Donc au lieu de mettre 2 ans à le construire, on met 6 mois. Voilà.
Ah ouais.
Mais je pense que la démonstration de la rue d'Arreau, comme d'autres démonstrations avec la tour Hyperion et également... C'est aussi, il faut le dire, hein, vraiment un levier de croissance sur des métiers qu'ils ne connaissaient pas, des promoteurs qui sont aujourd'hui en recherche de création de valeur. On est d'accord là-dessus.
Oui,
en plus, c'est un gros avantage. Ça simplifie les demandes d'urbanisme. Les élus locaux encouragent le changement de destination, surtout si c'est vers du logement. Mais quelle que soit la nature du logement, d'ailleurs. Ça peut être de la résidence gérée, ça peut être des résidences seniors, ça peut être de la résidence étudiante. Voilà, il y a toutes les formes sont possibles.
Oui, c'est ça. Et puis le bois ouvre un champ qui était inexistant auparavant. C'est-à-dire que par ses qualités, à la fois BBCA, puisque vous savez, ça séquestre le carbone, c'est merveilleux le bois. Tant que vous ne le brûlez pas, il contient des quantités astronomiques de carbone qu'il garde pour lui.
Il est aussi solide que le béton.
Il est aussi solide que du béton. Il résiste, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup mieux que l'acier à l'incendie. Puisque,
oui, parce que
la température...
Ça consomme le béton est conducteur.
Et puis l'acier à 800 degrés, il est mou comme du chewing-gum. Alors l'immeuble, il s'effondre. Tandis que là, à 800 degrés, s'il y a un panneau en bois, il brûle doucement pendant très longtemps, ce qui conserve ses qualités structurelles à l'immeuble tant que l'incendie n'est pas éteint, les gens ont le temps de partir. Il ne produit aucune fumée toxique, donc tout va bien. C'est-à-dire que c'est pas si mal que ça, le contraire.
Mais finalement, c'est pas un retour au bon sens, parce que fut une époque dans notre lointaine histoire également. Les ossatures bois, les structures bois étaient quand même très développées.
Oui.
Et on parlait du Canada. Du Canada. Ils ont un grand savoir-faire, savoir-faire au Canada. Ils arrivent à. Ça témoigne de la solidité. La filière bois s'organise justement. Est-ce que le bois va pas devenir, peut-être pas exagéré, on va peut-être pas remplacer le béton, mais est-ce qu'aujourd'hui le mix matériaux va s'imposer comme étant la règle?
Oui, je crois que c'est ça la solution. C'est-à-dire selon les problèmes qui sont identifiés. Il y a un matériau qui répond plus ou moins bien à ce problème. Et donc, c'est celui-là qu'on choisit. Pour surélever un bâtiment, il n'y a rien de mieux que du bois. Pour le fonder, il n'y a rien de mieux que du béton. Pour porter un porte-à-faux, c'est le cas à Hyperion, où il y a des porte-à-faux de 4,50 m.
Vous vous rappelez pour le public ce que c'est qu'un porte-à-faux ?
Un porte-à-faux, c'est une dalle, par exemple, qui est projetée dans le vide et qui n'est tenue que d'un côté. Donc, c'est impressionnant. C'est comme un plongeoir au-dessus d'une piscine.
Exactement
ça. Et donc, quand vous mettez des charges à 300, 400 kg au mètre carré là-dessus, vous voyez, il faut quand même de la structure pour le tenir. Mais là, on fait de l'acier. Donc, vous voyez, je vous ai décrit trois problématiques, trois matériaux différents. C'est ce jeu de complexité et de mix des matériaux qui va s'imposer maintenant dans l'avenir.
Alors, on dit que souvent, quand même, malgré tout, transformer peut coûter cher, peut aussi permettre, nous réserve parfois des surprises plus ou moins bonnes, créer plus d'incertitudes qu'un projet évidemment neuf. Aujourd'hui, une rénovation lourde peut-elle réellement être compétitive économiquement face à une démolition, reconstruction ?
Alors, d'abord, le cas de Darreau, puisqu'il est déjà maintenant réglé et nous avons les chiffres, donc nous pouvons en parler. Le cas de Darreau a démontré que l'opération n'était pas possible sur le modèle économique s'il n'y avait pas augmentation du volume bâti. Donc nous avons augmenté le volume bâti de deux façons, en rajoutant des côtés, et là, comme c'était des bureaux, il n'y avait pas de balcon, il n'y avait pas de loggia, il n'y avait pas de surface extérieure, donc nous avons rajouté des loggias, des balcons, des surfaces extérieures, pour que les familles puissent déjeuner dehors, avoir de l'air, donc ça a augmenté le volume, et nous avons rajouté 2 étages au-dessus. Donc il a fallu pouvoir faire ça pour atteindre une faisabilité du modèle économique. Et rajouter notamment les 20 logements sociaux que nous avons mis à l'intérieur. Ensuite, nous avons, pour Darreau, fait ce qu'on appelle de l'économie circulaire. C'est-à-dire, nous avons récupéré toute une série de matériaux de l'ancien bâtiment des sanitaires, des carrelages, des radiateurs.
Ah oui, on peut
bien sûr, des éléments de structure, certains éléments de structure, même des boîtes aux lettres qui étaient très bien. Et nous les avons réutilisés dans le nouveau bâtiment. Des luminaires, etc. Toutes sortes de choses ont été réutilisées. Et ça donne à ce bâtiment aujourd'hui une allure très particulière. Ouais. Quoi. On a l'impression qu'il a toujours,
unique,
voilà, c'est ça. Il a toujours existé, ouais, ce bâtiment, parce que c'est un lien avec, son histoire, en quelque sorte. Voilà.
Alors justement, on le voit, l'économie circulaire, le réemploi, la construction hors site ou l'assemblage hors site s'imposent comme étant effectivement des solutions alternatives, à condition qu'il y ait toujours un accompagnement, on va dire, politique. En tout cas des autorisations d'urbanisme, permis de construire ou la possibilité d'aller beaucoup plus rapidement dans le changement de destination. Avez-vous l'impression, vous qui rencontrez aussi beaucoup d'élus, qu'aujourd'hui ils sont moteurs, proacteurs justement de ces transformations-là? Est-ce que vous sentez que les élus locaux ont bien pris et saisi l'importance que ça a pour leurs administrés?
Oui, je pense que oui. À Darro, nous avons eu un problème qui était clairement politique, hein, c'est-à-dire qu'une partie de la municipalité s'opposait à la surélévation de l'immeuble. Hein, donc ça a été
carrément la municipalité.
Oui, donc il a fallu que nous réglions ce problème quand même, alors que la loi nous autorisait à le faire. Quoi. Donc,
il y a
eu des discussions.
Il y a eu des discussions. Voilà.
Et
c'était quoi la motivation, juste pour qu'on comprenne?
Non, c'est que dans certains quartiers,
ils veulent pas que ce soit trop.
La hauteur n'est pas, l'augmentation de la hauteur n'est pas bienvenue. Quoi, voilà.
C'est un piège, la verticalité, Jean-Paul?
Non, mais aujourd'hui c'est pas un piège, c'est une réponse. C'est-à-dire que nous avons un problème d'augmentation de la densité dans les villes. Et puisque nous avons de moins en moins de terrain pour bâtir, donc nous avons une obligation à superposer les fonctions. Vous voyez, on a parlé du bois, par exemple. Nous travaillons actuellement sur des centres commerciaux qui font un étage ou deux étages au maximum, qui consomment une quantité de terrain extraordinaire. Et donc, si on ne veut pas les démolir, si on veut les garder, mais si on veut répondre à cette question, il va falloir construire au-dessus.
Mais oui.
Bien sûr. C'est-à-dire faire des
jardins. Sans compter même les parkings qui sont inutilisés.
Faire des jardins au-dessus, faire des logements.
Mais oui, c'est une super idée.
Le faire légèrement. Donc, tout ce qu'on a dit sur le bois va s'appliquer. Vous voyez.
On densifie sans démolir. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça le...
Parce que sans démolir, et surtout... rappelez-vous, Jean-Paul, les centres commerciaux, vous savez, qu'on avait en zone périurbaine, aujourd'hui, ils font partie de la ville. Parce que la ville s'est étalée. Donc, du coup, ce qui était en périurbain hier est devenu aujourd'hui un élément de la ville, avec une espèce de parking. Parce qu'à l'époque, on était quand même sur un tout voiture. On sait qu'aujourd'hui, grâce au click and collect, au drive, on arrive à limiter l'empattement sur les parkings. Donc, même les parkings et les surfaces d'hypermarché peuvent être réinventés.
Oui,
parce que là, du coup, on a un volume qui est considérable. Enfin, un de vos collègues, un de vos confrères architectes disait on a 50 ans de chantier devant nous. Quoi.
Oui, les hypermarchés de périphérie sont un vrai sujet pour nous, parce qu'ils consomment énormément de terrain et ils ont des parkings considérables, effectivement. Et là, c'est là où le travail devient associatif, si je veux dire, au sens étymologique du terme. C'est-à-dire la ville va être concernée, par exemple, sur l'amélioration des transports en commun. Il ne faut plus venir à l'hypermarché ou aller au supermarché pour faire ses courses. Et si on peut prendre le tramway qui vous dépose devant, vous voyez, donc... Voilà. À Lyon, par exemple, c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit un 35 000 m² d'hypermarché sur Confluence, un magnifique bâtiment en bois. Et la ville, concomitamment, a construit un tram qui vous amène devant. Résultat, il y a le nombre de voitures achetées de 70%.
Ouais, c'est énorme.
Les gens viennent.
Je le connais très bien, voilà. Par Confluence, parce que moi je suis lyonnais. Donc, voilà. Je le connais très bien. C'est un projet extraordinaire. Qui est... Sur le papier, c'est vraiment. Ce qui est génial dans votre métier, c'est que vous partez toujours d'une feuille blanche.
Oui, bien sûr. Enfin là, c'est pas le cas.
J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que quand on vient chercher l'architecte, on vient chercher quoi? La créativité, l'ingéniosité.
C'est ça. Moi, je dirais plutôt que je n'ai pas d'idée préconçue. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que la feuille blanche, c'est plutôt l'ouverture à des solutions qu'on ne connaît pas nécessairement avant de commencer le travail, quoi, qu'on va découvrir en marchant. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à l'expérience d'abord, donc il faut s'entraîner. Et ensuite, il faut avoir l'esprit ouvert aux nouvelles technologies, à des assemblages qu'on n'a jamais faits, et avoir les bons partenaires. Voilà, c'est pour ça qu'un bon maître d'ouvrage, c'est pour ça que Gessina pour la rue Darro, c'était extraordinaire. Un bon maître d'ouvrage est absolument nécessaire.
Et on rappelle que vous avez aussi réhabilité la Tour Aurore à La Défense, un bâtiment qui date
je crois, des années 70. Mmh. Ce qui veut donc dire que...
C'est pas vous qui l'avez construit, là,
non. Damery Veterveil, qui étaient trois bons architectes.
Mais ce qui veut donc dire que ces vieux bâtiments-là, on parlait des anciens centres commerciaux à l'instant, en fait, peuvent avoir une seconde, une troisième vie, et que la solution du tout détruire n'est pas la bonne, quoi.
Jean-Paul Viguier, quand vous avez démarré en architecture, depuis votre sortie de l'école d'architecture, vous avez tout vu comme évolution dans votre métier.
Quand je suis sorti de l'école...
Quand vous voyez ce que vous faisiez à l'époque,
oui,
en sortant, vous avez vraiment vu une évolution.
Oui.
Vous la jugez comment, cette évolution?
Et on terminera là-dessus.
Oui. Non, moi, quand je suis sorti de l'école, c'était la fin de... C'était après 68, c'était la fin de l'académisme des Beaux-Arts. Donc déjà, on sortait d'une époque révolue qui avait animé et rendu célèbre, d'ailleurs, les Beaux-Arts dans le monde entier. Hein. Mais c'était terminé. Voilà, on passait à une autre chose. Et qu'est-ce qu'on avait à se mettre là-dedans? On avait deux choses. On avait le Corbusier, avec ses théories... Ouais. C'était très contesté à l'époque, la ville radieuse, tout ça, c'était très discuté. Et puis, on avait le modernisme qui nous venait des États-Unis. Voilà. C'est pour ça que je suis parti, moi, faire des études à Harvard. Et je suis resté 3 ans aux États-Unis pour me frotter au modernisme. Voilà.
Oui, entre des Viollet-le-Duc au siècle dernier, au 19e siècle, mais aussi les Prouvé, vous savez, les maisons Prouvé, là, que j'adore, absolument incroyable.
Ben, c'est ça.
Et c'est vrai que vous avez vu de cette évolution. Ce qui démontre que l'architecte a quand même une place, bien sûr,
énorme,
prépondérante.
Évidemment.
C'est un plaisir de vous recevoir.
Eh bien, moi, c'est un plaisir d'être avec vous.
C'était une vraie belle première.
Merci
beaucoup. N'hésitez surtout pas à revenir nous voir, Jean-Paul.
On va mettre d'ailleurs l'adresse de l'URL de Viguier Architecture.
Voilà.
Sur le podcast en question.
Merci à vous de votre fidélité. Merci encore une fois, Jean-Paul, d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Sylvain, on se retrouve dans quelques instants pour une prochaine interview. Ne bougez pas, on revient dans une poignée de secondes, hein, toujours ici depuis la 5e édition du CIPCA, dans le 8e arrondissement, au Grand Palais. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.